gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Pianiste accompagnatrice, au gré du temps, elle a fréquenté presque tous les camps musicaux du Québec, celui d'Harford, de la Naudière, le camp des Laurentides, sans oublier, bien sûr, le camp musical du domaine Forget dans Charlevoix. Elle concentre maintenant ses activités comme professeure, accompagnatrice et directrice musicale de l'opéra au cégep Marie-Victorin. Une musicienne accomplie, un plaisir que d'accueillir Catherine Leroux. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
On parle d'accompagnatrice, c'est véritablement un métier en soi.
Tout à fait. Un métier très complet. Ça demande une très grande sensibilité, une très grande ouverture, une grande capacité de s'adapter à plusieurs instruments.
On mentionne, quand il est question de musique pianistique, on parle souvent des grands interprètes, des solistes. On parle rarement, cependant, du travail que peuvent réaliser les accompagnateurs et accompagnatrices auprès d'autres solistes, que ce soit au violon, au violoncelle, ou auprès d'autres instruments. Et pourtant, ce travail, il est vraiment fondamental pour permettre à ces solistes de faire carrière.
Oui, parce que, vous savez, le chanteur sans pianiste aurait bien de la misère à se retrouver sur scène, chanter un récital au complet, à moins que ce soit de la musique contemporaine. Mais voilà, l'accompagnateur est un soutien primordial, autant au niveau technique, au niveau qu'au niveau psychologique aussi.
Que voulez-vous dire au niveau psychologique? Parce que vous travaillez avec des gens qui ont souvent de forts égos, peut-on dire?
Bien, c'est-à-dire qu'il faut que c'est... On est là pour soutenir ces personnes-là, puis les envelopper. Alors, il faut qu'il y ait un contact humain qui se passe entre les deux. Il faut qu'ils aient confiance avec le pianiste.
On est dans un véritable dialogue.
Tout à fait. Tout à fait. Et on se donne la main ensemble, puis on part ensemble, puis on saute. Mais il faut que les deux aient confiance. Alors, il faut que le pianiste soit vraiment techniquement un niveau, je dirais peut-être supérieur même, pour être capable de soutenir la tension, de la nervosité quand il y en a, surtout en période d'examen ou en période de concours. Alors, l'étudiant plus avancé doit reconnaître, doit se sentir soutenu. Il n'y a même pas de doute. Puis après ça, bien, il sait que musicalement, ça va se passer.
On l'accompagne presque par la main, d'une certaine façon, mais en demeurant un peu dans l'ombre.
Oui, c'est délicat là, comme sujet.
Oui.
On essaye de ne pas rester dans l'ombre, malheureusement. On essaye de prendre notre place au soleil,
oui.
Mais tout en étant très délicat. Je pense que c'est ça qui est important.
Quand je dis dans l'ombre, ça n'avait pas une connotation péjorative, mais c'est que souvent, si on voit un chanteur ou un soliste d'un autre instrument, l'attention est davantage portée vers cette personne plutôt que vers l'accompagnateur, ce qui ne veut pas dire que son rôle est négligeable,
c'est
cependant.
Il faut vraiment créer tout un équilibre.
Et c'est probablement la difficulté.
C'est le défi. Oui, parce que surtout quand on passe d'un instrument à l'autre, d'un chanteur à la clarinette, au saxophone, il faut savoir adapter son jeu à chaque fois, à l'interprète et à l'œuvre qui est demandée. Là.
On va se permettre au cours de cette heure d'écouter beaucoup de musique, particulièrement de musique pianistique. On va d'abord débuter par une œuvre, un interprète que vous connaissez bien, Marc-André Hamelin.
Que j'adore.
Que vous adorez. Si vous me parliez de la première œuvre qu'on va entendre.
Alors, c'est un prélude en sol majeur, opus 32, numéro 5. En fait, j'aurais pu tous les choisir, ces œuvres. Mais c'est d'une simplicité. Il y a toujours l'espèce de quintolet à la main gauche qui revient. Il y a un côté très improvisé, une mélodie pure.
Thank you.
Avec nous aujourd'hui, Catherine Leroux. Catherine Leroux qui exerce le métier d'accompagnatrice depuis de nombreuses années. Ça fait beaucoup de passages que vous avez pu ouvrir, si j'ose dire, hein, des voies qui s'ouvrent pour des solistes qui feront parfois carrière ou qui, un peu comme vous, deviendront peut-être éventuellement accompagnateurs ou accompagnatrices. J'imagine que c'est un sentiment assez grand qui doit nous habiter quand on fait ce métier, parce que vous êtes là pour accompagner des gens qui ont déjà au départ un grand talent.
Oui, puis en fait, c'est comme vous dites, quand on voit que ces jeunes-là continuent d'aimer la musique et continuent de persévérer. On les voit qui font encore des auditions pour des orchestres et oui, ils ont passé toutes les épreuves, des défis. Hein. Ce sont comme des athlètes. Alors, des fois, ce sont avec des cornistes avec qui on joue, ben là, ils ont des problèmes de lèvres, d'endurance, de musculature. Puis après ça, ça se replace parce qu'ils reprennent confiance puis ils continuent de travailler. Alors, oui, c'est un bel accomplissement que de voir que des jeunes avec qui on a travaillé gardent l'amour de la musique malgré les épreuves qui peuvent être...
Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à la musique? Vous avez commencé très jeune. Vous avez commencé, je pense, avec une tante.
J'ai commencé à l'âge de 6 ans en jouant du violon.
Ah bon?
Et puis, après ça, moi, j'ai pris des cours pendant 2 ans. Et à la suite de ça, pendant une année, j'ai arrêté. Mon professeur était malade. Et puis, je m'ennuyais. Puis ma mère a rentré un piano à la maison. Puis là, je voulais connaître un petit peu plus les notes. Puis là, la clé de fa. Puis là, elle m'a dit, bien, écoute, Catherine, je connais un très bon professeur. Si ça t'intéresse, on peut prendre des cours avec elle. Mais elle m'avait dit, elle est très, très sévère. Bon, alors, je suis allée la rencontrer. Puis en effet, elle était très, très sévère.
Vous vous souvenez de son nom?
Thérèse Gingras. Elle est décédée, là, maintenant, mais je pense que... Elle avait participé dans le film Les vrais perdants. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était dans le temps des Olympiques. En tout cas, c'est tous les enfants qui performaient à la gymnastique, à la natation et puis en musique. Et puis, c'était un professeur demandant.
Très exigeant.
Très exigeant. Elle m'avait dit, j'avais 9 ans, puis elle m'avait dit, quand tu commences, c'est 1h30 par jour, là, à 9 ans. Et puis, voilà.
En gardez-vous un goût amer ou au contraire, ça a été vraiment ce qui vous a permis de devenir ce que vous êtes devenu?
Bien, moi, ça m'a plu parce que les règles étaient établies dès le départ.
Dès le départ.
Puis, je savais ce qu'il y en était. Puis bon, il y avait du progrès. Puis après ça, il y a eu des concours. Puis il y avait des récompenses à tout ça, là. Puis musicalement, elle venait me chercher en quelque part, là. Puis
Ce goût du dépassement était déjà inculqué dès votre jeune âge.
Oui, mais je pense que ça venait me chercher à l'intérieur de moi-même aussi. Tu sais, c'est comme si ça avait touché l'âme.
Intéressant. Bien, puisqu'on parle d'âme, si je vous mentionne le nom de Jean-Philippe Collard, c'est pour vous un pianiste d'envergure?
Oui, qui s'intéresse beaucoup à la musique française.
Oui, il fait sans nul doute partie des grands pianistes de notre époque. Sa discographie, ne serait-ce qu'à cet égard, est vraiment très impressionnante et comporte plus de 60 titres. Il a joué avec les plus grands orchestres de notre époque. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller entendre Jean-Philippe Collard?
Non, malheureusement. Non.
Peut-être un jour, parce que Collard sillonne toujours les grandes scènes musicales du monde. Alors, le voici au piano, jouant l'improvisation, opus 84, numéro 5, de Gabriel Fauré. C'est une œuvre que vous nous aviez proposée, peut-être pas nécessairement par Jean-Philippe Collard, mais cette œuvre de Fauré, pour vous, elle a une connotation particulière?
Je pense que c'est toujours dans l'esprit de la musique improvisée un peu, improvisation improvisée, cet esprit où on sent que tout s'ouvre, qu'il n'y a pas nécessairement de barrière, on n'entend pas la barre de mesure, c'est comme si tout est ouvert.
Catherine Leroux est avec nous, accompagnatrice, pianiste d'envergure. Vous me disiez en tout début d'émission qu'il faut reconnaître peut-être davantage ce métier d'accompagnatrice ou d'accompagnateur. C'est un métier qui est, et je le dis encore une fois, ce n'est pas péjoratif, mais c'est un travail qui se fait trop souvent dans l'ombre parce que notre attention est portée souvent sur le soliste que vous accompagnez.
Oui, mais c'est parce que c'est toute la préparation avant d'arriver sur scène. Là, quand vous arrivez sur scène, vous avez le résultat, mais toute la préparation avant, c'est là qu'elle se fait. Et puis, dans une rencontre où on joue ensemble, l'accompagnateur est un peu le coach. C'est lui qui parle de la rythmique, qui parle des phrases musicales. Tu pensais à ça quand tu étais avec les chanteurs, au niveau de l'articulation, au niveau de la langue. Quand on est avec un trompettiste, as-tu pensé à ça, ta projection, ton son, ta tenue, ta posture? Alors, on parle de tout. Il faut connaître.
Ça ne se limite pas uniquement à la musique comme telle. Ça englobe tout.
Il faut connaître l'autre instrumentiste. Il faut connaître l'instrument avec lequel on participe. Il faut connaître l'humain qui est là aussi. Il faut aller le chercher pour lui donner confiance.
Donc, il faut avoir une grande capacité d'empathie.
Tout à fait. Oui.
Est-ce que vous êtes nombreux au Québec à exercer ce métier?
Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, non. Non, il n'y en a pas tant que ça. Et ça serait agréable que les institutions nous reconnaissent un petit peu plus.
Pourquoi dites-vous cela? Parce qu'on a tendance...
Je pense qu'il n'y a pas de budget. Il n'y a jamais de budget. Puis on a tendance à tasser ça assez rapidement. Alors, bien, heureusement, moi, encore au cégep où je travaille, on le reconnaît, mais on aurait tendance à vouloir...
L'oublier parfois.
L'oublier un petit peu, des fois.
Bon, on va réfléchir à tout cela en écoutant un extrait du concerto pour piano en fa dièse mineur, opus 1 de Rachmaninoff. Ça date de 1891. C'est le premier des quatre concertos qu'a composé Rachmaninoff. Celui-ci n'avait que 19 ans lorsqu'il a composé cette œuvre, mais il l'a retravaillée à plusieurs reprises. Et de toutes les révisions que fit Rachmaninoff, c'est peut-être celle de 1917, qui a connu le plus grand succès. Nous entendrons le deuxième mouvement, marqué Andante Cantabile, interprété ici par l'Orchestre symphonique national de Taïwan, dirigé par Lan Shui, avec Yevgeny Sotbin au piano, ce pianiste russe, qu'on acclame déjà comme l'un des grands pianistes du 21e siècle, fait déjà l'envie de bien des jeunes pianistes, même si lui-même il est très jeune. Alors écoutons cette œuvre de Rachmaninov. Catherine, vous avez au départ participé assez rapidement, lorsque vous étiez jeune, à des concours, à Vincent d'Indy?
Oui, concours inter-élève.
Et ça, c'est une épreuve que de participer à des concours. Quand je dis une épreuve au sens que l'humain doit se surpasser, il y a un stress qu'on doit apprendre à gérer, il y a une performance lorsqu'on participe à des concours qu'il faut atteindre.
Oui.
On n'est pas encore nécessairement au stade de la compétence, parce qu'il faut faire une nuance entre performance et compétence. Mm-hmm. D'accord avec moi?
Oui, mais... Dans le contexte où moi, j'ai commencé plus tardivement, à 9 ans et demi, alors mon professeur me disait « on fait les concours parce que ça nous stimule et l'important, c'est de participer ». Puis, bon, la semaine avant, ben ce qui était important, c'était de faire de la musique de toute façon. Alors, j'y allais un petit peu naïvement, là, je participais à ces concours-là. Puis, ben, agréablement, il y a eu des belles surprises, mais je me mettais pas de pression. Puis, avec ce professeur-là, qui était assez exigeant, on savait si on... Elle nous donnait l'heure juste. On savait si on était prêt ou pas prêt. Puis, alors, elle nous donnait presque le verdict d'avance.
Ah oui.
Et puis, ben, ça se passait bien, parce que, c'est ça, j'allais pas là pour être en compétition, mais plus, c'était comme un projet...
Et la notion de plaisir à travers cela, est-ce qu'on pouvait quand même la percevoir? Est-ce qu'il y avait du plaisir à le faire ou est-ce qu'on était uniquement dans l'ordre de la performance?
Je pense que le plaisir, c'était son propre accomplissement à soi. C'est son accomplissement personnel, là. Si j'essaie de me rappeler à cette époque-là, là. Mais musicalement, c'était de rendre l'œuvre le plus loin possible avec les moyens que j'avais à l'époque. Alors, c'était mon propre...
Parce que première relation pour quelqu'un qui écoute de la musique, qui n'en joue pas nécessairement, c'est cette relation de plaisir éprouvé en écoutant des mélodies, des interprétations qui sont mm-hmm. parfois majestueuses. Cette notion de plaisir doit être présente, sinon la musique n'a pas nécessairement de sens.
Oui. Je comprends ce que vous vouliez dire en notion de plaisir, mais je penserais à l'autre côté qui est un petit peu le côté artiste. L'artiste n'a pas toujours du plaisir à faire ce qu'il fait, mais il le fait parce que c'est comme... Il se développe comme ça. Ça fait partie de son développement personnel.
Au départ, mais il doit ressentir quand même à un moment donné ce plaisir. Sinon,
il n'a, oui, il y a des moments... Le plaisir se développe de toutes sortes de façons
oui.
aussi.
Oui.
Plaisir de parce qu'on a eu un plaisir d'une rencontre, des fois avec le public, des fois... c'est ça, il y a toutes sortes de...
Le plaisir de l'accomplissement.
Oui, c'est ça.
Un qui éprouvait probablement du plaisir à jouer parce qu'on l'entend... parfois chantonné, on l'entendait même sur les œuvres de Bach qu'il interprétait, c'était Glenn Gould.
Mm-hmm.
On lui a reproché d'ailleurs, parce que sur ses disques, les enregistrements qu'il effectuait, on l'entend ouais. souvent chantonner, on lui reprochait, et aujourd'hui, on trouve que c'est presque génial, parce que c'est comme s'il était en symbiose avec la musique qu'il interprétait.
D'une grande concentration de...